Bonsoir, mesdames et messieurs. Excusez un peu le retard, mais je n'en prends qu'une part de responsabilité. Hein. Alors, je ne sais pas comment on a prévu le déroulement de la cérémonie, mais enfin, je laisse la parole à mon assesseur, il va tout nous dire.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. En fait, cher Roland Dumas, vous avez 2 minutes d'avance. Oui.
C'est des choses qui m'arrivent de temps en temps.
Et je me demande si ce n'est pas un peu une métaphore de votre parcours. Si vous voulez bien, je voudrais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en lisant quelques passages très, très courts hein, de votre ouvrage « Coups et blessures », 50 ans de secrets partagés avec François Mitterrand. Alors, c'est un peu une sorte de patchwork, hein, mais c'est pour donner un petit peu aussi, peut-être aux auditeurs et aux personnes présentes et aux lecteurs aussi.
Est-ce que vous entendez bien
d'aller plus loin. Vous entendez bien, ça va? Bien. Page 9, c'est vous qui écrivez, hein, bien sûr, et vous parlez de vous. Insouciant et léger dans ma vie privée, mon idéal professionnel a toujours été de servir, entre guillemets. Deux points, mes clients d'abord, mon pays ensuite, en tant que député, ministre et président du Conseil constitutionnel. Je n'ignore pas que les prétoires et la politique sont des arènes où les coups pleuvent et laissent parfois des bleus à l'âme. J'ai aimé ce côté bretteur que m'ont si souvent reproché ceux qui ont de la vie une conception moins exalté que la mienne. Page 29, une très belle phrase qui nous renverra à Marcel Proust. Je faisais tout ce qu'il fallait pour réussir. Tout le monde me croit désinvolte, alors que j'ai toujours été travailleur. Longtemps, je me suis levé de bonne heure pour préparer mes dossiers. Page 32. J'ai gardé des morceaux d'une tapisserie, petit calendrier que vous aviez trouvé de 1853, une tapisserie, quand vous avez fait refaire un appartement. J'ai gardé des morceaux de cette tapisserie car je suis un conservateur, entre guillemets, un progressiste conservateur, ou plutôt un aventurier conservateur. Ce dont j'ai horreur, ce sont les conservateurs authentiques, les bourgeois obtus que chantait Jacques Brel. Comme des cochons, c'est ça, hein. Et puis, page 42, on y reviendra. Toute ma vie, j'ai tourné autour de la religion sans aller jusqu'au Saint des Saints. Et à la fin, un très beau passage. Les sympathies pour le Front National qu'on me prête sont des fables, des anecdotes emportées par le vent de l'histoire. J'arrive à l'essentiel. Pour moi, c'est page 169. Pour moi, il n'y a qu'un critère, qu'un repère, c'est la vie. J'ai tellement mesuré que je perdais tout avec la mort de mon père, que le reste n'est qu'écume des vagues. C'est pourquoi c'est gênant de ne pas être croyant. À certaines époques de ma vie, j'ai peut-être été amoral, mais la moralité, A-M-O-R-A, dans un même mot, mais la moralité dépend toujours du sujet concerné. S'il s'agissait de tromper une femme, je n'hésitais pas longtemps. Mais s'il s'agissait de mettre la main dans un panier qui n'était pas le mien ou de tricher un examen, je ne le faisais pas. Je trichais pour mes copines. Celle qui était derrière moi au baccalauréat était nulle en allemand. Je lui ai fait sa traduction. C'était la fille d'un copain de mon père aux indirects, contributions indirectes. Du ministère des Finances. Elle était assez jolie, mais je la soupçonnais d'aimer les filles, car elle montait à cheval, même si ce n'est pas un indice suffisant. Sa sœur était très amoureuse de moi, mais ce n'était pas mon type. J'aurais préféré l'Amazon. J'arrête là parce qu'il y a dans ce texte qui fait 530 pages, 520 pages, il y a autant de richesses, de bons mots, de très étonnant, à la fois d'humour, de précision, de souvenir, que ce que je viens de lire à l'instant. Roland Dumas, vous êtes un personnage tout à fait étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça c'est presque une évidence. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau au personnage de votre illustre homonyme, Alexandre, et vous avez, en 50 ans de vie politique et d'engagement, parcouru réellement la moitié du XXe siècle. Je rappelle que vous êtes né en 1922 et que vous avez été, dès 1940, sensibilisé, préoccupé par l'esprit de résistance. Vous avez été très jeune adhérent au Parti Socialiste avant 1939. Votre personnage, à l'égard duquel vous avez une vraie révérence, si je puis dire, c'est Léon Blum. Votre père a été un militant socialiste. Il a été surtout combattant pendant la Première Guerre mondiale, aviateur. Il reprend du service entre 39 et 40. Il est un des cadres du ministère des Finances à Limoges. Et en 1941-42, il s'engage dans la résistance. Il est un des patrons de ce qu'on appelle les nappes, les noyaux de l'administration
publique.
Et en 44, il est arrêté, il est otage. Et le 26 mars 44, il va être choisi parmi, au départ, 100 otages. Franz Neupnagel demande 100 otages pour un attentat qui a été commis contre la voiture d'un militaire nazi qui s'appelle Bremer, qui est celui qui est chargé de liquider les maquis de résistance dans le centre-ouest, enfin en particulier dans la partie du Limousin. Et votre papa va être exécuté parmi les otages à Brantôme. Et de ce moment-là, mais aussi parce que vous avez été vous-même combattant, et en particulier à la libération de Paris, 25 août 44, date, on peut dire, votre engagement au service, comme vous le dites si bien, de votre pays et par la suite de tout ce que vous avez pu faire. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur, je dois dire, alors que j'étais vraiment jeune, de vous croiser, de vous rencontrer. Et assez régulièrement, vous montiez un grand escalier du Quai d'Orsay pour, du moins c'est ce que je croyais, j'en suis certain, vous alliez au laboratoire de langue pour suivre des cours de langue. C'était vrai ou c'était,
c'est vrai.
C'était une astuce?
C'est vrai, c'est
bon,
vrai.
C'est vrai,
oui.
D'accord.
Hein, oui. Bon. J'ai refait de l'allemand et du russe.
Oui, exactement. Et donc ça, c'est tout à fait étonnant. Nous sommes en 85-86. Et je dois dire que, après tout ce que vous avez vécu, moi j'ai envie de vous poser une question, peut-être un peu pour lancer la conversation, puis on va échanger pendant un moment et après on discuterait avec la salle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent encore aujourd'hui?
On pourrait penser que la réponse est non, mais ma réponse est oui.
Vous allez nous
dire, je suis étonné par la richesse de ce monde et en particulier par la richesse des chercheurs, par la richesse de la jeunesse, par l'invention de la jeunesse, qu'il s'agisse de jeunes gens ou de jeunes filles. Et je suis admiratif de tout ce qui se passe, au point que quelquefois je me dis, mais je suis complètement dépassé, je ne peux plus suivre. Je vois avec mes petits-enfants, j'ai 4 petits-enfants, je suis marié à une Bordelaise et on a 4 petits, des enfants, on a 3 enfants et 4 petits-enfants, dont un garçon et 3 petites filles. Eh bien, je les vois devant leur appareil informatique manipulé. Le dernier a 6 ans. Il manipule tout cela comme... je n'ai pas l'idée que je pourrais le faire, même. Je ne dis pas de le faire, mais de pouvoir le faire. Et je me dis en moi-même, au fond, la race, notre race humaine se renouvelle, se rajeunit au fur et à mesure, se développe. Et c'est bon espoir. Alors, il y en a qui sont des vieillards aigris. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Bon, moi, je m'efforce de ne pas l'être. Des fois, je rogne un peu. Je rouspète contre leurs mères qui font pas assez attention aux petits-enfants. Mais on me dit, ça n'a pas d'importance, ils se débrouillent. Et effectivement, je constate que les jeunes d'aujourd'hui, c'est surtout eux qui provoquent l'admiration. Malheureusement, il n'y en a pas assez ici dans la salle, mais c'est très bien qu'on le leur dise. Tous les jeunes d'aujourd'hui s'adaptent merveilleusement au monde de demain. Mais je ne suis pas sûr non plus que le monde leur réserve les mêmes avantages. Je vois quand même se dessiner, moi qui étais pendant 10 ans à la tête de la diplomatie française, je vois se constituer dans le monde des grands ensembles, je vois les pays les plus forts s'armer, je me dis tout ça, ça ne peut pas être innocent. Alors je me pose en même temps l'idée, je suis ébloui, pour répondre à votre question, devant l'adaptation de toute cette jeunesse, mais en même temps un peu inquiet de l'avenir qui leur est réservé. Mais ça, l'avenir, comme disaient les Allemands, n'appartient qu'à Dieu. Hein. Et moi, je ne suis pas en mesure d'en décider.
Alors, voilà. Vous avez abordé évoqué votre famille. Donc, vous êtes marié à Anne-Marie Lillet, hein, la famille Lillet, célèbre...
Bon apéritif.
Célèbre liqueur Lillet, qui est redevenu très à la mode. Hein.
Ça revient à la mode, oui.
Dans le livre, vous reprochez à votre belle famille de s'être fait racheter par Ricard. Hein, oui, ça va vous le reprocher.
Hein, c'est, oui, mais ça rejoint notre première question. Je me dis, notre génération, la mienne, a été incapable, dans certains cas, de maintenir un niveau de vie, de s'adapter à des conditions de vie plus difficiles, à brader le patrimoine, mais aujourd'hui, les jeunes relèvent le gant. Et ce que vous dites là est un bel exemple. Bon, on ne va pas épiloguer, hein, je ne veux pas me faire engueuler ce soir en rentrant à la maison. Non mais, c'est vrai que... Alors, il y a un certain nombre d'affaires qui confient à des générations qui ne se sont pas adaptées, sont passées entre des mains plus jeunes et plus habiles.
Alors, on va aborder quand même un premier aspect de votre livre qui est quand même tout à fait étonnant, on va dire rattrapé par l'actualité évidemment, et en particulier par l'affaire dite Strauss-Kahn. Vous parlez beaucoup des femmes hein, dans votre livre, des femmes que vous avez rencontrées, c'est absolument... évident, et vous en parlez dans des termes, on va dire, d'une grande simplicité. Hein,
vous voulez dire que c'est un langage direct.
Un peu ça, voilà. Hein,
bon.
Alors, vous donnez le sentiment d'osciller entre une vraie passion pour les femmes, on dirait, ou on pourrait dire aussi, ça va peut-être vous surprendre, une forme, je ne dis pas de machisme, mais de misogynie, parce que finalement, le seul homme que vous semblez avoir aimé, en dehors de votre père, on va y revenir, c'est Daniel Mitterrand qui le dit. Je voudrais presque dire, alors que vous n'avez jamais, je pense, confessé un quelconque penchant homosexuel, en tous les cas, ça serait une surprise si vous nous le disiez ce soir, c'est François Mitterrand. Daniel Mitterrand dit... Finalement, vous aimez François comme une femme.
Oui, c'était sa femme, Danielle Mitterrand, qui, quand elle était comme ça, un peu de mauvaise humeur, ça lui arrivait, nous disait « Mais vous, avec François, vous êtes comme des femmes, vous êtes amoureuse de lui. » Je ne dirais pas la même chose. J'étais admiratif de François Mitterrand, comme je l'ai été d'un certain nombre d'autres hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Les uns dans le métier d'avocat, j'étais quand même l'avocat de Picasso pendant 10 ans jusqu'à sa mort. Permettez-moi de vous dire que c'était pas quelqu'un de banal, Picasso. Il était génial dans sa production, dans ce qu'il était. C'était pas un mathématicien, c'était pas un savant, mais c'était un génie vivant. J'étais l'avocat de Jacques Lacan, par exemple, psychanalyste, qui a laissé un nom dans la psychanalyse. C'était quelqu'un de formidable aussi. Mais dans les hommes politiques, j'ai été très admiratif, j'allais presque dire amoureux, ce qui n'est pas le mot, mais j'ai été très admiratif d'un homme comme Mendès France. Et à un moment même, j'emploie le langage ambigu à ce propos, Mitterrand était un peu jaloux, me disant, mais enfin, Roland, quand même, on ne va pas emmener la fédération qu'on avait créée sur un plateau à France.
La fédération de la gauche démocrate et socialiste.
La FGDS. L'ancien président du Conseil. Mais c'est vrai que j'ai une admiration sans borne, parce que c'était notre génération, pour la première partie de sa vie en tout cas, pour le général de Gaulle. Je veux dire, cet homme seul... qui est parti en Angleterre contre son allégeance nationale, qui s'est institué là-bas dans une petite maison que l'on honore aujourd'hui, loin des siens, loin de tout le monde, et qui s'est dit « je suis la France ». Il fallait quand même, les plus anciens peuvent se remémorer, il fallait un culot incroyable pour imaginer ça à cette époque. Voilà, si vous voulez, les gens que j'ai beaucoup admirés, que j'ai beaucoup aimés aussi, et Mitterrand est un de ceux-là. Le hasard de la vie, le hasard des rencontres, ça existe beaucoup dans le destin, dans la destinée, a fait que j'étais plus proche de François Mitterrand, et quand j'ai commencé à faire une carrière politique, c'est avec lui que je l'ai faite. Dès 1956, quand j'ai été élu la première fois à l'Assemblée nationale, donc je suis allé à son groupe, et je me rappelle, il était très fier d'avoir ce petit parti qui s'appelait l'UDSR à l'époque, qui était issu de la Résistance, avait subi une série d'échecs en France particulièrement. Il y a eu un seul élu nouveau en France, c'était moi. Il était très fier de dire à Mendès, vous avez vu la nouvelle génération du dessert. La nouvelle génération, c'était moi tout seul. C'était un peu ridicule. Mais je veux dire par là que le hasard de la vie, qui compte beaucoup dans la durée comme ça, pour les êtres, le hasard de la vie a fait qu'elle m'a réservé comme ça des faveurs exceptionnelles, de rencontrer des gens d'exception avec lesquels j'ai eu des relations privilégiées, formidables. Et c'est un des cas.
Qu'est-ce qu'il avait de si magnétique, François Mitterrand, pour ainsi attirer à lui, j'allais dire, de telles fidélités, parce que, risque de vous déplaire, mais je ne vais pas vous déplaire, vous n'étiez pas le seul à succomber à son charme, si je puis dire.
Oui, mais je ne suis pas jaloux, ne vous inquiétez pas. mais ce que vous dites est vrai. Il y avait quelque chose qui relève du magnétisme, c'est-à-dire de l'insaisissable. Mitterrand entrerait là, par cette porte, s'il était vivant, tout le monde serait braqué sur lui. Je veux dire, il avait une sorte de majesté, il n'était pas très grand, mais il avait une sorte de majesté physique qui s'imposait tout de suite où il était. Dans n'importe quel milieu, dans une assemblée, on ne regardait que lui. Et c'était lui qui devenait le centre et l'épicentre de toute la réunion, qui commençait à parler et qui était écouté.
Bien avant 81, bien avant
qu'il soit... Bien avant 81, moi je le fréquentais depuis les années 50, on s'était croisés dans la résistance, enfin à la fin de la guerre, donc on était amis, sans plus. Mais c'est à partir de 56, quand j'ai été élu, que là on est devenus très amis, on se voyait tous les soirs. On a voté ensemble contre le général de Gaulle, on préparait la suite. Quand ma mère est morte, il venait tous les jours m'accompagner à l'hôpital. Et puis, il a eu un geste un jour que je vais vous raconter parce que c'est assez caractéristique de la personne. C'était quelqu'un qui n'était pas familier. C'était pas quelqu'un qui vous prenait dans ses bras pour vous embrasser, même les petits-enfants. Il était assez prude comme ça. Mais quand j'ai perdu ma mère, dans les années 65... Il savait qu'elle était malade, il était venu à l'hôpital la voir, et puis elle est morte. On a décidé de l'enterrer dans le berceau familial, le tombeau familial, à Limoges, un matin, 9h du matin, petit cimetière, et c'était le brouillard partout, c'était à l'automne, et nous étions rassemblés là devant le cimetière, on attendait le corbillard avec le corps qui arrivait, et je vois arriver, avant le corbillard, une Citroën traction avant. Je regarde, en faisant avec ça à faire, je regarde, et je vois au volant quelqu'un qui était un homme seul, et je m'approche, c'était Mitterrand. Il avait traversé toute la France, depuis la Nièvre, il s'était levé à 5h du matin. Il avait demandé au préfet à quelle heure aurait lieu l'enterrement, pour arriver là, à 9h du matin, pour être à côté de moi au moment où j'enterrais ma mère. On n'avait pas suffisamment d'intimité à ce moment-là, Pour se manifester à cette occasion, qui était une occasion tragique. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'a frappé, là, mais c'est que j'en parle aujourd'hui. Vous voyez, quelque chose qui m'a frappé parce que c'est un geste.
Vous ne le dites pas dans le livre.
C'est pas dans le livre, non. Mais on peut faire quelques confidences. Mmh. et c'est quelque chose qui m'a frappé profondément. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est en 65, donc c'était bien avant qu'il soit réélu député, puis président, qu'il devienne président de la République en 81, vous voyez, vous vous rendez compte. Ma mère est morte en 65. Donc, je me suis dit, c'est un geste que je n'oublierai pas, et c'est un geste extraordinaire. C'est un cadeau qui vous est fait, qui ne coûte rien que le sentiment que l'on y met.
Et lui qui était, comme vous dites, prude ou qui était réservé, qui n'avait vraiment pas le tutoiement facile, c'est le moins qu'on puisse dire, à plusieurs reprises dans le livre, il apparaît qu'il vous tutoie.
Oui, dans alors ça c'était entre nous, fois un peu c'était presque quelque chose de connivence. Quand Mitterrand me recevait, ça dépend où on se trouvait, c'est lui qui mettait le ton de la conversation. Si c'était une conversation très privée, au besoin sur la blague, il commençait, il disait « Alors comment vas-tu ?» Je savais à ce moment-là qu'il voulait que le tutoiement se perpétue. Je vais bien, et toi ? C'est comme ça. Si en revanche, il me disait « Quelle est la situation au Proche-Orient, monsieur le ministre ?» Très solennel. Je savais tout de suite qu'il fallait dire « Monsieur le président de la République ».« Monsieur le président de la République, voilà les dernières nouvelles. » Donc c'était pas un jeu, c'était automatique. Et je me souviens que j'en ai fait des conseils des ministres, vous pensez bien, pendant 10 ans. Et la première parole qu'il avait au premier conseil des ministres, c'était « Ici, messieurs, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas des camarades. » Bon. Ouais. Tout le monde se dit « vous ». On n'intervient pas pendant les exposés des ministres. Mais surtout, il n'y a pas de tutoiement. C'était quand même, il voulait donner à la fonction, la sienne, mais celle aussi de ses ministres, une solennité qui ajoutait de la majesté à la fonction que nous avions. C'était ça, Mitterrand.
Dans votre vie politique, vous dites que vous avez appartenu à un groupe qui s'appelle le Club des 22. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce Club des 22 et en particulier, est-ce qu'il y avait Jacques Chaban-Delmas dedans ?
Oui, Jacques Chaban-Delmas y était. Alors, il venait c'était... surtout comme invité. Le Club c'était... des 22, voilà, c'est toute une histoire qui est en train de se terminer. C'était le président de l'Assemblée nationale, Achille Peretti, qui avait été grand résistant chez
maire
De Gaulle,
maire de Neuilly,
qui, après la guerre, avait créé, comme ça, il y avait beaucoup de gens qui survivaient de la guerre et de la résistance, le Club des 22. C'est-à-dire qu'on était 22, triés entre nous. Il suffisait qu'il y en ait un qui soit contre pour que la personne n'entre pas. 22 qui étaient issus de la résistance. Alors il y avait la résistance de Londres et la résistance intérieure. Moi j'y suis entré au titre de la résistance intérieure en raison de l'histoire de mon père et aussi de mon histoire, parce que j'étais quand même arrêté à 20 ans en 1942. Donc c'était
des hommes politiques obligatoirement ?
C'était uniquement des hommes politiques ou des gens de la résistance. Vous avez des écrivains. Vous savez actuellement que celui qui vient d'écrire. Alors petit à petit on meurt et on se remplace de façon à ce qu'il y en ait 22. Puis maintenant, tout ça s'étiole, il y en a de moins en moins. Alors donc les 22 sont pour le moment 18 ou 19. Donc petit à petit, il y en aura un qui restera, qui sera à lui tout seul les 22. Bon, mais on se réunit là dans un mois et on discute des choses de la politique. Et il y avait un écrivain, celui qui était le secrétaire personnel de Jean Moulin.
Daniel Cordier.
Daniel Cordier, qui vient d'écrire un très beau livre.
Alias Caracalla.
Caracalla, sur la vie qu'il avait avec Jean Moulin quand il le rencontrait à Lyon. Du reste, on y était en même temps, dans les mêmes organisations, et on ne se connaissait pas. On se donnait rendez-vous dans les mêmes librairies. La grande librairie de Lyon, à laquelle je vais aller dans quelques jours, qui est comme Mola ici à Bordeaux. Mais on ne se connaissait pas. Et il raconte tout ça au jour le jour. C'est un très, très beau livre, très intéressant, avec ses angoisses, ses arrivées, ses sorties. Le jour, il n'avait pas d'argent, puis un rendez-vous manqué. Donc, Cordier en fait partie. L'autre historien, il y a un deuxième historien qui est là, qui a un nom un peu compliqué, composé, qui vient d'être Grand Croix de la Légion d'honneur. Il était là aussi. Mais il y avait Chaban, il y avait le Premier ministre, Mesmer, et puis tous les autres. Il y avait Guéna.
Maurice Druon.
Maurice Druon,
qui était Guéna qui vous a succédé.
Et alors, Maurice
au Conseil constitutionnel, à la présidence.
Alors en plus, vous savez, la vie nous réserve des choses incroyables. Maurice Guéna était maire de Périgueux, et moi, on me présente à Périgueux. Mitterrand vient faire ma campagne, et je bats Yves Guéna. Je tiens à vous dire que il n'était pas content. On peut le comprendre. Donc, pendant six ans, on est resté très adversaires, comme deux chats qui ne se supportent pas. Bon, on venait à Paris, il fallait bien vivre. Et puis, un beau jour, il y a une place de libre au Conseil constitutionnel que je présidais depuis 1995, nommé par un président de la République. Vous savez que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le sénateur, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat me téléphone, me dit « Monsieur le Président, je vous en prie, Monsieur le Président, je vais avoir à renouveler un des membres du Conseil constitutionnel. » Je dis « Monsieur le Président, je le sais, merci de m'appeler. Oui, alors je voulais vous faire part de ma décision, je viens de signer le décret. » Donc c'était une façon de me dire, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai signé le décret, j'ai désigné Monsieur Guéna. D'un seul coup, je reste au téléphone, je reste muet. Il me dit, mais vous êtes là? Je dis, oui, je suis là, mais vous ne réagissez pas. Je dis, écoutez, monsieur le président du Sénat, excusez-moi, mais est-ce que vous avez pensé à la personnalité? Mais bien sûr, c'est quelqu'un de très bien. Je dis, oui, mais est-ce que vous avez pensé que nous avons été adversaires à Périgueux et que je l'ai battu de 800 votes? Oh, il me dit, je vais oublier ça. Bon, mais j'ai dit, écoutez, c'est fait, c'est fait. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé Guéna. Et Guéna, très chevaleresque, il a fait une très belle guerre, hein. Très chevaleresque, au téléphone, éclate de rire, il me dit, écoutez, la vie nous réserve des surprises. Et puis je dis, oui, mais c'est comme ça. Et puis il m'a dit, je viens vous voir à 11h, je l'ai reçu à 11h, il est devenu membre, un des membres épicasses du Conseil constitutionnel. Et après, quand j'ai démissionné, le président de la République avait changé, c'était Jacques Chirac qui me dit « À qui pensez-vous ?» Ben, je lui dis « Il faut nommer le doyen. » Et le doyen, c'était Yves Guénard. Ce qui fait que moi, je l'avais battu à Périgueux, mais il m'a succédé au Conseil constitutionnel. Voilà les aventures de la vie qui font que... Alors c'est peut-être ce qui apparaît dans ce livre... En tout cas, je voudrais que ça apparaisse. Je regrette si ça n'apparaisse pas, et je suis satisfait si ça le fait. Je veux dire que, au-delà des luttes politiques, des choix politiques, il y a quand même quelque chose qui demeure entre des gens qui ont servi des partis différents, mais qui ont servi la patrie avec le même élan, le même choix. J'espère que, au fond, on s'apercevra qu'il y a des choses qui subsistent et qui sont plus importantes que les partis pris, les majorités, les différences, et que quand on arrive comme ça à la fin de sa vie, que l'on écrit un livre comme j'ai voulu le faire, eh bien, il y a des choses qui demeurent dans notre inconscient et dans notre conscient.
Alors en particulier dans le livre, dans le droit fil de ce que vous dites, moi j'ai lu, en tous les cas j'ai senti, je veux dire, presque une vraie tendresse et admiration pour le Parti communiste et pour les militants du Parti communiste. Oui. Vous dites en particulier, j'avais pas de complexe vis-à-vis du parti des 50 000 fusillés, parce que moi j'étais fils de fusillés, donc j'avais aucun complexe avec eux. Alors ça paraît, c'est pas une surprise, mais ça paraît un petit peu étonnant. Vous, le devenu grand bourgeois, à l'égard du Parti communiste, vous semblez, je ne dirais pas sur les positions de Mélenchon, mais...
Non.
Mais en tous les cas, vous dites, je suis un social-démocrate.
Oui.
Je ne suis pas marxiste, je suis un social-démocrate. Mais en même temps, vous vous sentez, je crois, assez proche du militantisme du Parti communiste.
Je vais vous dire, c'est plus nuancé que ça, si vous permettez, oui. Si vous
pardonnez
cette expression qui a l'air de désobligeante.
Non, pas du tout.
Votre question, elle n'est pas du tout. Mais je vais vous dire... Je ne suis pas communiste, et j'ai trouvé dans le communisme, j'ai beaucoup étudié le communisme, beaucoup de choses qui sont blâmables. Le manque de liberté, les procès faits aux uns, les procès faits aux juifs, les procès contre les déviationnistes, les révolutions de Prague qui ont été de Prague et de
Budapest.
Bulgarie qui ont été
Budapest,
et de Budapest, hein. Surtout Budapest en 56 qui ont été réprimés dans la douleur. Je trouve que c'est très dommage, pour pas dire plus, dans la part d'un grand parti qui a été un grand parti. Mais en même temps, j'ai rencontré, moi, des communistes, et notamment dans la résistance. J'ai été interné, j'ai été arrêté en 1942, mis dans un fort, Fort Barreau, à côté de Grenoble. Il y avait là, dans le fort, depuis 3 ans, depuis 1939, des communistes qui étaient arrêtés sur un décret de 1939 de la guerre, sur ordre de Pétain, et qui étaient là, qui servaient de gibier pour les exécutions sommaires quand il y avait un enfer. J'ai trouvé chez ces gens-là tellement de dévouement à la cause qui était la leur, sans qu'ils se rendent compte de ce qui se passait là-bas, dans le temple même du communisme, que, au nom de la résistance qu'on avait servi ensemble, je ne me reconnaissais pas le droit, quand j'étais ministre, de partager cette furie contre des gens qui avaient été... Et puis je vais vous dire la chose, je ne le dis pas dans le livre, je ne crois pas. J'ai une certaine admiration pour le patriotisme des Russes. Quand je vois le sacrifice qui a été fait dans la guerre 39-45, des dizaines de millions de Russes qui ont quand même un peu contribué, pas mal contribué, à la victoire sur l'Allemagne, je me dis, c'est pas négligeable ça. C'est pas négligeable. Hein. Staline, bon, c'est vrai qu'il a eu des torts, mais il a eu aussi quelques courages. Et alors, tout ça mêlé faisait qu'à l'Assemblée nationale, j'étais ministre d'un gouvernement dans lequel il y avait quelques ministres communistes, 4 qui étaient là, qui ont joué le jeu, je dois dire, de la correction démocratique. Mais quand j'avais un problème, notamment avec les votes à l'Assemblée sur le budget, avec le Parti communiste, je me rappelle que je leur disais des choses comme ça. Je leur disais, j'ai une certaine admiration pour ce que vous avez été, pour le peuple russe qui a été. Et je ne comprends pas votre attitude. Et alors, je n'avais aucune réplique de la part des communistes. Parce que c'était des gens que vous touchiez sur ce plan-là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas suspect sur le plan du patriotisme. Sur d'autres plans, des libertés, c'est vrai. Mais tout le reste, pourquoi pas ? Et donc ça, c'est cette petite phrase que vous trouvez dans mon livre, je crois, mais je n'ai pas développé, je le développe ici. Je veux dire que je ne comprends pas, moi, toute l'exclusive qui a été donnée contre le Parti communiste, si ce n'est au nom des principes de liberté, de correction et de savoir-vivre. Voilà.
Donc ça veut dire que, par exemple, très tôt, avec François Mitterrand, vous considérez qu'il est non seulement... souhaitable, mais presque nécessaire, de faire une alliance à gauche, au sein de l'Union de la gauche, à construire après le congrès d'Épinay 71 et en 72.
C'est ce qu'on a fait. Oui. Mitterrand m'avait même chargé des négociations secrètes.
En 65.
En 65, oui. Avec Waldeck Rocher, qui était un homme admirable, qui a beaucoup souffert du comportement du Parti communiste tchécoslovaque, notamment, et hongrois. C'est avec lui que j'ai négocié dans le plus grand secret, puis après c'est devenu public tout ce qui a été l'accord. Mais il était apparu déjà, je tiens à le redire ici, que c'était une ineptie au point de vue politique de se faire enfermer dans l'exclusive avec le parti communiste, qui nous faisait désespérer d'avoir un jour une majorité, et qu'au contraire l'opération qui a été faite par Mitterrand, moyennant 4 ministres communistes qu'on contrôlait très bien et qui étaient dans des postes où ils n'avaient pas le loisir de faire une révolution. Par exemple, comme mon ami, Marcel Rigoux, qui était du même département, qui était stalinien, etc., mais qui avait mangé son chapeau. Et de dire, il était à la formation professionnelle. Je ne voyais pas ce que la formation professionnelle pouvait avoir de dangereux pour la sécurité du pays. Bon, il y en a 4 voix, on avait tout le Parti communiste, donc faire une majorité. C'était du point de vue politique, tactique, mais c'était formidable d'avoir cette idée qu'il fallait rompre avec l'exclusive jeté au Parti communiste. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien, le même problème se pose et se posera à partir de l'année prochaine avec la droite et le parti de Le Pen. Et donc moi, je les attends au tournant en disant, eh bien, c'est bien d'avoir critiqué, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous faites la même chose.
Oui. Votre deuxième grand combat après la résistance et après 40-44, c'est aux côtés... de ce qu'on appelle en France les réseaux Janson, c'est-à-dire les militants français autour de Francis Janson, autres bordelais, qui vont soutenir les combattants du FLN. Alors ça, même le Parti communiste va vous le reprocher, parce que l'idée, c'est de dire que vous financez ceux qui tirent sur les appelés.
Francis Janson était bordelais. C'était un philosophe, il était école de Sartre, il avait été le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Il a vécu à Claouet jusqu'à la fin de sa vie, là où il est mort il y a 6 mois ou 1 an à peu près, l'enterré, ça. Et c'était un garçon qui, par la philosophie, avait pris position avec Sartre contre la guerre d'Algérie. Et un jour, j'étais au Parlement, et il m'a envoyé quelqu'un qui est venu me dire, voilà, nous avons décidé de constituer un collectif qui va, aux côtés des Algériens, proposer des Français, donc, qui ne seront pas Algériens, mais qui aideront à la fin de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va y avoir des arrestations pour les défendre. J'ai accepté.
Là, on est en 57.
C'est ça, 57-58, c'est ça. De là, le livre très intéressant et le film qui a paru, que vous avez peut-être vu. Je sais que je m'adresse ici, dans la région, à un public qui est très sensible à ce problème. Il y a eu beaucoup de pieds noirs, il y a eu beaucoup de gens réfugiés, bon, qui ont eu leur vie aussi, avec leurs problèmes. Donc, il faut comprendre aussi. Il faut comprendre qu'ils aient des aversions contre quelqu'un qui a aidé des Algériens. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté, on a fait le procès Janson, le procès du réseau Janson qui s'est terminé. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais très minoritaire, comme je le suis peut-être un peu aujourd'hui en tenant les propos que je fais. Lacoste, qui était dans mon parti, Robert Lacoste, qui était ministre de l'Algérie, membre du gouvernement
Guy Bollé. Qui était en Lot-et-Garonne,
il était ici. Me voyait dans les couloirs de l'Assemblée, me disait, toi, si je n'avais pas connu ton père, il était syndicaliste comme mon père, si je n'avais pas connu ton père, je te ferais fusiller. Bon, mais j'en étais à l'Assemblée, il n'y avait pas de risque. Mais je veux dire, c'était à ce point-là. Et aujourd'hui, on a du mal à rétablir une relation, je dirais, pas affective, c'est pas possible, mais normale avec les Algériens, parce qu'il y a tout ce contentieux qui est là, qui gère les choses. Alors qu'il y en ait parmi les nôtres qu'il y ait de la douleur, des chairs encore meurtries, ça je peux le comprendre. Mais qu'en même temps, l'intérêt de la France à l'époque était subordonné à ça, c'est un petit peu difficile. Bon, c'est difficile à admettre. Donc voilà, donc la situation était la suivante. C'est pour ça que quand je me dis aujourd'hui, même si je suis minoritaire, c'est peut-être un peu un signe de jeunesse. Tout à l'heure, on m'avait posé la question. C'est peut-être un signe de jeunesse, j'en sais rien. La jeunesse vient à tout âge. Et donc, me dire, bon, ben, c'est vrai, je suis minoritaire, mais écoutez, je l'ai été deux fois dans ma vie, dans une situation fondamentale, la résistance et la guerre d'Algérie, mais je suis devenu majorité au bout du temps. Donc il faut prendre du temps. Et le temps, c'est le temps.
Et là, oui. Vous rencontrez donc celui que vous allez encore fréquenter très récemment, donc l'avocat Maître Vergès.
Oui,
mais
ben
vous défendez les Français, lui défend les Algériens. Oui, oui. En fait, il vit avec une combattante du FLN aussi,
oui,
qui va défendre.
À l'époque,
hein.
Oui. Et, il a un enfant avec elle.
Oui. Et vous allez avoir à plusieurs reprises quand même de vrais conflits entre tous les deux.
Ah ben oui.
Vous le dites dans le livre, vous êtes fâché vraiment plusieurs fois, mais les avocats, ça se fâche jamais vraiment, c'est ça?
Mais ça se passe jamais très bien, mais là, c'était très aigu.
Non, ça se passe jamais très bien, mais ça se fâche jamais vraiment non plus.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si vous voulez, Jacques Vergès, qui était lui dans le collectif des Algériens, il voulait mettre la main sur toute la défense. C'est-à-dire, les Français, ils nous racontent des histoires, ils veulent être là, mais ils ne veulent pas être dans la défense des Algériens. Ils voulaient m'éliminer à l'époque. Et moi, j'avais fait une réunion en Allemagne, parce qu'il était interdit de séjour en France, avec Francis Janson et les dirigeants du FLN, pour faire arbitrer le conflit. Parce que c'était un vrai conflit. Il fallait qu'on ait notre autonomie, nous. Bon, faire. Et puis finalement, Janson l'a emporté. On est resté autonome. On est resté autonome. Bon, ça a été un épisode parmi d'autres. Mais on a eu d'autres accrochages. Mais c'est quelqu'un que je respecte. On n'a pas du tout les mêmes idées. Il était communiste. Il a été à l'International communiste. Jamais été communiste. Lui, il a été. Et bon, il a un passé. Il a une histoire. Donc c'est quelqu'un que je respecte comme il est, en le prenant comme il doit être.
Y compris voilà. Quand il défend Barbie.
Ça, c'est autre chose. Je ne pouvais pas. Écoutez, je ne peux pas, moi, prétendre ou avoir prétendu défendre Barbie quand mon père a été fusillé par les Allemands. Réfléchissez 30 secondes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un. D'abord, je le défendrai mal. Et puis ensuite, bon, il y en a d'autres qui sont là. Mais je ne peux pas défendre Barbie. Pour des raisons personnelles.
Vous lui reconnaissez le droit et peut-être même l'obligation professionnelle de défendre Barbie.
Il n'était pas mécontent d'avoir une affaire comme Barbie. Je veux dire, c'était quand même, aujourd'hui, en dehors de l'affaire de M. Strauss-Kahn, c'était la grande affaire de l'époque. Hein.
C'est un parallèle que je vous laisse...
Oui, non, mais je parle de l'aspect professionnel.
Effectué. Bien. On est à Bordeaux, évidemment. Jacques Chaban-Delmas, vous pouvez nous en parler un peu, parce que vous avez été son adversaire en 77, il vous a bien battu. Pourquoi vous venez vous présenter à Bordeaux?
Alors,
en 77
François Mitterrand voulait imposer sa nouvelle politique, c'était en 77, on était loin de 80, mais pas tellement loin, 4 ans. Ça compte pour peu.
Parce que vous en parlez pas du tout dans le livre.
Mais j'en ai parlé dans un autre livre. Alors,
ah d'accord. Ah,
bon. Ça. Mais donc Jacques Chaban-Delmas était maire de Bordeaux et Mitterrand m'avait dit Chaban, c'est quand même quelqu'un qui était la nouvelle société. Il devrait se rallier à nous, etc. Il devrait voir de notre œil la perspective que j'offre. Et donc il m'avait dit, vous êtes le meilleur d'entre nous, expression qui a servi depuis. Vous allez vous présenter contre lui. Moi, je savais très bien. Bon, j'avais des attaches ici, mais je savais que Jacques Chaban-Delmas était indéboulonnable sur Bordeaux. J'étais là. Il était là depuis 1945. Il a fait une belle guerre. Il a été général chez De Gaulle. Bon, c'était bien. C'était la figure emblématique. Donc, c'était une bataille politique qu'il fallait conduire avec très peu de chances de l'emporter. Donc, c'était clair. Mais je dois dire que ça avait été un peu douloureux en même temps parce que Jacques Chaban-Delmas, c'était un copain de résistance. Je l'avais connu, là, comme je vous l'ai dit, dans le Club des 22, où il venait très peu souvent, mais il venait quand même. Et donc, il avait été dans la résistance, et on se connaissait bien. Et donc, c'était un adversaire politique, mais ce n'était pas un ennemi, au contraire. Alors, on a eu quelques épisodes comme ça, où il n'était pas très à l'aise, moi non plus. Je me rappelle un jour où il faisait une inauguration, là, pendant la campagne des municipales, et moi, je suis arrivé en même temps, là, sur le lieu. Là, il s'est arrêté, puis il m'a dit, avec sa voix un peu comme ça, nasale, il m'a dit, « J'aime pas beaucoup les tractards !» Je dis, « Je suis pas un tractard, je suis là par hasard, comme vous y êtes. » Donc, c'est terminé comme ça. ça. On est revenu très amis après. Et je peux vous dire, par exemple, que je suis allé saluer sa dépouille dans son domicile, là, présence de sa femme, et que je vois régulièrement sa femme. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup.
Qui avait une vraie relation d'amitié avec François Mitterrand ?
Oui, ils se tutoyaient. Oui, c'est voilà, une des rares personnes qui se tutoyaient, oui, c'est ça, oui. Et parce qu'ils étaient issus de branches différentes de la résistance, mais de la résistance quand même. Et je me souviens, quand j'accompagnais Mitterrand et qu'on se rencontrait, il avait des mots aimables avec Mitterrand.
Et puisque vous parlez beaucoup des femmes, on a dit que c'est François Mitterrand. Non. Ne répondez, pardon. On a dit que c'était François Mitterrand qui avait présenté Micheline Chaban-Delmas à Jacques Chaban-Delmas.
Tout à fait. Oui. Au golf à Paris.
Ah, oui, à Biarritz.
Ou à Biarritz, peut-être à Biarritz.
Je continue dans votre vie, alors cette fois-ci politique, à partir de 1981, 83, vous êtes député de Dordogne, à partir de 81, je crois savoir que vous manquez de peu d'être désigné pour être président du conseil régional au départ d'André Labarrère.
Oui.
Mais ça ne se fait pas, hein, puisque peu importe. C'est Philippe Madrelle qui va être désigné à votre place, hein, à l'intérieur du groupe socialiste.
Oui.
Et en 83, vous devenez ministre des Affaires européennes à la succession d'André Chandernagor. Hein.
Oui.
Et là, vous allez travailler avec Claude Cheysson. Vous n'aimez pas trop Claude Cheysson ?
Si, mais on n'avait pas d'atome crochu. Je ne l'avais pas connu dans la guerre.
Il vous énervait, d'après ce qu'on comprend dans le livre.
Oui.
Il, à la fin, il faisait des notes de 10 pages.
Oui, alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'était le rapport qu'il avait avec le président de la République. Ouais. Il était son ministre des Affaires étrangères, donc moi, je l'ai été après. La relation dans la Constitution de la Ve République est très forte entre le ministre des Affaires étrangères et le président de la République, et réciproquement. La politique étrangère dépend du président de la République. Or, François Mitterrand était quelqu'un qui comprenait très vite et qui comprenait très bien les problèmes internationaux. Claude Cheysson, c'était un travers qu'on peut lui pardonner. Il avait la manie de faire des notes tous les deux jours, très longues, 4-5 pages, sur la situation dans le Moyen-Orient, la situation en Afrique, la situation en Extrême-Orient. Il envoyait ça à Mitterrand. Mitterrand finissait par être un peu lassé, tu vois. Et c'était toujours un peu dans le même sens. Ce qui fait que... Mais il était très compétent. Il connaissait très bien l'histoire mondiale présente, c'est-à-dire tout ce qui intéressait la diplomatie. Et il avait de bons réflexes. Je me souviens d'un débat à l'ONU où il avait dominé l'Assemblée nationale. Avant que je sois son remplaçant, il m'avait dit, écoute, je te demande d'attendre un peu, je veux faire ce débat à l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York, parce que c'était contre le racisme, une décision à prendre. Il avait fait un discours retentissant qui était vraiment de la classe de celui de Villepin, qui a enthousiasmé les gens. Il avait trouvé cette formule extraordinaire à propos du racisme pour les Noirs. Il avait dit « Les Allemands, les nazis avaient inventé l'étoile jaune ». Mais pour les Noirs, ils n'ont pas besoin d'inventer une étoile, c'est la couleur de la peau qui compte. C'était quand même très émouvant dans le débat international de l'époque. Non, je dois dire que Claude Cheysson était... Je n'ai pas parlé de ça dans mon livre. Claude Cheysson était quand même un type très respectable, un petit peu ennuyeux en raison de son insistance. Et peut-être la longue connaissance que j'avais de François Mitterrand depuis les années de la Libération, ont fait que ça passait beaucoup plus vite avec Mitterrand. J'avais pas besoin qu'il m'explique longtemps quelque chose. On n'a jamais eu un seul différent. On a eu des petites ombres. Au moment où il était président de la République, avant on en a eu sur la guerre d'Algérie, mais quand il était président de la République, tout ce que je faisais, il l'approuvait. Bon. Et tout ce que je lui proposais, il était d'accord. Quand il a écrit son livre sur l'Allemagne, il m'a demandé de faire les principaux chapitres, parce que je connaissais mieux l'affaire que lui. Mais il n'y a qu'un sujet, c'était assez amusant, je vais vous le raconter, je ne sais pas si je le raconte dans le livre, c'était les affaires du Proche-Orient. C'est-à-dire la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens. Moi, j'étais de la thèse que les Israéliens en faisaient trop, on n'abandonnait pas assez de pouvoir aux Palestiniens, que le peuple palestinien avait une certaine légitimité à revendiquer des droits, etc. Bon, c'était différent. Lui, il était très soucieux de sa relation privilégiée avec tout le monde juif. Et donc, il me disait, Roland, n'en faites pas trop, etc. Un jour, Arafat, s'annonce en France. Il demande à venir en France. Alors Mitterrand me demande mon avis. Je lui dis, écoutez, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas lui refuser, mais il a été reçu par le roi d'Espagne, il a été reçu par le pape, il a été reçu par le roi d'Italie, le président de la République italienne. Bon, il est invité, non pas par la France, mais par le Parlement de Strasbourg, qui plus est présidé par un socialiste, donc on ne peut pas y aller et on ne peut pas refuser. Et si vous en êtes d'accord, j'irai même l'accueillir, parce que c'est, ah, il m'avait dit, c'est embêtant. Hein. Enfin, puis il était exaspéré de voir que j'insistais. Il m'a dit, bon, faites comme vous voulez. Ce qu'il voulait dire, dans mon esprit, j'ai très bien compris. Si ça se passe mal, tant pis pour vous. Bon, j'y vais, j'arrange bien la chose, c'est-à-dire que je le reçois, et je fais une petite conférence de presse, et puis pas de questions, tous les journalistes américains étaient là, tous, hein, et donc pas de questions, je ferme la porte, et puis je m'en vais. Je reviens à Paris, et je vais le voir le lendemain matin. Il était en train de me voir, et il me dit, ah, vous êtes là, oui. Et je lui dis, eh bien, vous avez vu, j'étais à Strasbourg, oui, j'ai vu, oui. Et j'ai dit, ça s'est pas mal passé. Oui. Oui, j'ai trouvé la poignée de main un peu longue. Bon, je lui dis, ça, c'est pour toi. Très bien. Et alors, piqué au vif, je lui dis, mais vous ne savez pas à quoi vous avez échappé. Il dit, non, à quoi j'ai échappé. Alors, j'ai trouvé cette astuce. J'ai dit, écoutez, de toute façon, quand il est descendu de l'avion, oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, vous n'avez pas vu? Non. Eh bien, il est venu vers moi, Arafat, les bras écartés, je l'ai regardé, je me suis dit, il va m'embrasser. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé les deux mains et je les ai serrés un long moment. Et alors, d'un seul coup, j'ai vu son œil qui s'allumait. Il m'a dit, ah, vous n'avez pas voulu vous trouver dans la situation de Rocard. Et Rocard s'était fait piéger. À Beyrouth, un jour, il reçoit Arafat. Le même scénario, Arafat descend les bras, puis il attrape, il embrasse Rocard. Évidemment, c'est une histoire, c'est une image qui a fait le tour du monde. Ah, vous n'avez pas voulu. Alors, le seul fait que j'avais évité la situation difficile dans laquelle s'était trouvé Rocard, ça le ravissait. Et c'est comme ça que j'ai pu rattraper l'affaire. Tout s'est très bien passé. Je lui ai demandé de le recevoir et il l'a reçu.
J'ai une autre question de politique étrangère qui est passée aujourd'hui complètement dans l'oubli, mais vous en parlez dans le livre et que je trouve tout à fait intéressante, parce que je trouve que vous aviez vu vraiment juste, c'est la venue de Jaruzelski. Le passage de Jaruzelski, qui était donc le général président de la Pologne après l'état de guerre du 13 décembre 81. Et vous, faites, avec François Mitterrand, vous considérez qu'il est nécessaire de voir Jaruzelski. Et Laurent Fabius, lui, ne comprend pas ce qui se passe, ou en tous les cas se démarque et va se faire un peu sermonner, on va dire. Qu'est-ce qui vous a... Expliquez-nous... À quel titre ou sur quelle base vous considérez qu'il faut voir Jaruzelski quand personne considère qu'il est visible à l'époque? Je rappelle qu'il était en escale technique entre Varsovie et Alger.
Exactement. D'abord parce que il faut faire un petit bout d'histoire. Moi, j'étais au Quai d'Orsay et je surveille tout ce qui se passe à l'Est. Et je surveille notamment tout ce qui se déclare se fait dans les pays périphériques de la Russie, parce que ça commençait à bouger.
Ce qu'on appelle les satellites. Ce qu'on appelle les pays satellites.
Pays satellites. Je note dans une dépêche d'agence que Jaruzelski, dans une conférence de presse, auquel il pose la question, pourquoi ne rétablissez pas de meilleures relations avec la France, Jaruzelski avait dit, écoutez, je fais tout ce que je peux, mais jusqu'à présent, tous nos efforts ont été contournés, n'ont pas eu de succès, donc les relations sont à zéro avec la France. M'était dit un petit quelque chose. Et en même temps, j'apprends, toujours souci des journalistes, qui m'est très cher, que le correspondant du Monde à Varsovie a été expulsé et qu'il n'arrive pas à avoir de visa. Le Monde m'écrit en me disant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Fort de ce que j'avais entendu de Jaruzelski, je lui fais une lettre comme ministre des Affaires étrangères français et je lui dis, mais vous voulez rétablir des relations avec la France, le premier geste que vous pourriez faire, ce serait de recevoir le correspondant du Monde. Il me répond, il donne le visa.
Yann Krause.
Krause, exactement. Et le type est parti content. Bon. Les choses s'enchaînent, quelques temps passent de là, et toujours, j'avais toujours l'œil sur la Pologne. Parce que pour moi, la Pologne... C'est un pays qui avait tellement souffert de la guerre, qui a été partagé entre les Russes et les Allemands, les nazis, que je me disais, il y a quelque chose. Jaruzelski, général polonais, il a beau être communiste, c'est pas un général communiste comme les autres. il y a quelque chose. Et l'histoire qu'il m'a racontée après, parce que je l'ai revue un grand nombre de fois, m'a confirmé dans ce sentiment que j'avais vu juste. Mais quelque temps de là, l'ambassadeur de Pologne à Paris me téléphone et me dit, voilà, j'ai un message du général Jaruzelski, très bien. Le général se pose, il revenait d'Algérie, il se pose à Paris en escale technique. Est-ce que vous pensez que le président de la République française pourrait le recevoir au cours de cette escale technique? Je me suis dit, ça c'est le branle-bas. Il y avait toutes les histoires des syndicats Solidarność, on n'avait pas de relation forte avec un ambassadeur, mais il était taisant, il ne bougeait pas beaucoup. Je me dis, moi je ne vais pas prendre ça sur moi, je vais voir Mitterrand qui était assez fier, qui voyait quand même que les choses bougeaient avec les États satellites, et notamment avec la Pologne, me dit, mais dites-lui oui. Bon, très bien. Oui, monsieur le président, d'accord, mais je dis, je n'en parle à personne. Me dit-il, on n'en parle à personne. Et moi, un peu naïf, je lui dis, mais à personne, personne, c'est personne. Très bien, me dit. Et je dis, même le Premier ministre. C'est quand même un peu insolent pour moi. J'étais quand même membre du gouvernement, d'un gouvernement, sous les ordres d'un Premier ministre. J'avais des bonnes relations avec Fabius.
Ça ne vous déplaisait pas de donner une leçon aux petits jeunes, quand même.
Mais en même temps, c'était catégorique. Quand il disait quelque chose, c'était pas... Surtout quand vous le répétez deux fois. C'est secret. Bon, très bien. Là-dessus, les Polonais là-bas en Algérie lâchent le morceau à la presse, une dépêche tombe, on était à Bruxelles dans une conférence internationale, une dépêche tombe, le général Jaruzelski sera reçu par le président de la République. Téléphone, Attali qui était là arrive, affolé, j'ai Fabius au téléphone, il est furieux, il veut parler au président, Mitterrand toujours calme. Allez-y. Je prends une avalanche, mais incroyable. Comment? C'est inadmissible. Je n'ai pas été prévenu, je ne suis pas d'accord, et ça ne se passera pas comme ça. Bon. Je reviens, Mitterrand, ne vous inquiétez pas, vous calmez-vous. Et puis, le lendemain, Conseil des ministres, Mitterrand, très solennel, dit il y aura sûrement aujourd'hui une bagarre à l'Assemblée nationale, une question sur Jaruzelski, puisqu'il y a la dépêche. Donc, à la question, on fait profil bas. C'est le ministre des Affaires étrangères, votre serviteur, qui répondra. Très bien, on se sépare, et Mitterrand part pour un voyage pour les Antilles. Très bien, tranquille. À 1h de l'après-midi, avant le débat de l'Assemblée, coup de téléphone de Fabius. Tu sais, il y aura deux questions. Je dis, mais écoute, c'est pas deux questions. Oui, il y aura deux questions du Parti Socialiste. Je me suis dit, deux questions du Parti Socialiste, c'est fomenté, ça, c'est incité. Oui, alors si tu es d'accord, je lui ai dit, de quoi s'agit-il? On a réglé le problème. Non, si tu es d'accord, j'ai pris la décision de répondre à la deuxième question. Je lui ai dit, mais écoute, Fabien, Laurent, c'est pas ce qui est convenu. Mais j'ai décidé. Et je lui ai dit, dis-moi au moins ce que tu diras, parce que moi, je prendrai la première. Mais tu le verras bien, puis raccroche. Je suis dans la marée jusque-là, qu'est-ce que je vais faire? Il arrive à 3h, il s'assoit, il me dit rien, blanc. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais tu le verras. C'est là où il s'est levé, et derrière moi, et il a dit, je n'ai jamais été troublé de toute ma vie par une question comme celle de Jaruzelski à Paris, qui m'est posée, etc. Un branle-bas, Mitterrand aux Antilles, qui me téléphone toute la nuit. Mais pourquoi il a dit ça? C'était pas réglé. Roland, fallait lui rappeler. Vous m'avez dit, pas de secret total. Moi, j'ai pas autorité sur le Premier ministre. C'est vous que... Bon, non, ça va. Demain, je rentre. Après-demain, je veux réunion à l'Élysée avec Fabius. C'est passé comme ça. Et alors? Mais là, je vous fais rire. Heureusement qu'il est mort, parce qu'il m'en voudrait. Il reçoit Fabius. Une engueulade. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais enfin, ça s'est bien passé. Fabius raconte que comment, moi, j'ai pas été prévenu. Hein. Comment, vous n'avez pas été prévenu? Lui dit Mitterrand, tenez-vous bien. Il dit, comment, vous n'avez pas été prévenu? Il dit, oui, j'ai rien su. Moi, j'ai su par une dépêche que ça avait lieu. Comment? Roland ne vous avait rien dit? Alors que moi, de toute bonne foi, tenu par le secret, je n'avais effectivement rien dit.
Cette partie-là, vous la racontez pas. La fin, telle que vous venez de la raconter, vous ne le dites pas dans le livre, là.
Ah bon, j'ai pas dit.
Non, c'est la dommage. Dernière partie dans le bureau du président, ça vous le dites
pas. Et alors, depuis, Fabius, il m'en veut un peu, mais enfin, on s'est expliqué depuis. J'ai dit, écoute, mon vieux, c'est Mitterrand, c'était Mazarin. Il va pas tout te dire, comme il ne disait pas tout à moi. Mais la réflexion, comment? Voilà, vous avez rien dit. Comme l'enfant qui vient de naître, quoi, qui découvre tout.
Avant de donner la parole à la salle.
Ah oui, je vous en prie.
Avant de donner la parole à la salle, quand même, deux questions d'actualité. Alors. Sur Kadhafi, qu'est-ce qui vous prend ?
La même chose.
Mais quand
non,
même,
la même chose, je veux faire comprendre
essayer de faire condamner la France,
que la vie n'est pas faire, aussi simple faire que condamner le croit la l'Alliance Atlantique. C'est
faire condamner la France pour crime contre
Attendez, on n'en est pas encore là. On va déposer une plainte, mais c'est pas encore fini. Le processus n'est pas terminé.
Si vous déposez plainte, c'est pas pour vous amuser, quand même.
Non, c'est pour déposer une plainte.
Mais alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez une ministre des Affaires étrangères dans cette ville-là. Alors donc,
en deux mots, bon. Une résolution a été votée, la 1742, par les Nations Unies, qui donne mandat aux avions de l'OTAN de protéger les populations civiles, mais ils ne mettront pas de troupes à terre. Mais c'est devenu maintenant des bombardements, non pas pour protéger les populations civiles, mais contre les populations civiles. Moi, je suis allé à Kadhafi, je vous dis, j'ai visité les hôpitaux. Vous avez des jeunes de 25, 26, 26 ans qui ont les jambes coupées au-dessus du genou.
À Tripoli, vous voulez dire, pardon.
À Tripoli, oui. J'ai dit, pardon.
Non, vous avez dit à Kadhafi.
Ah non, Kadhafi, non. Chez Kadhafi,
à Tripoli. Il n'y a pas longtemps, il y a combien de
temps? Il y a 8 jours.
8 jours, bon. Alors, donc vous dites, il y a des tirs contre les populations civiles.
Oui. L'OTAN n'est pas fait pour apporter la paix, n'est pas fait pour détruire les populations civiles. Et le mandat donné n'est pas celui-ci.
Et quand on dit, ou quand il est avéré que Kadhafi se sert des populations civiles de Tripoli comme bouclier humain.
Si vous prenez comme principe de relations internationales, que vous pouvez intervenir dans un pays parce que le gouvernement ne vous plaît pas, vous allez avoir 50 conflits autour de vous. Voulez-vous me dire pourquoi une force, qui n'est quand même pas n'importe quelle force, l'Alliance Atlantique, ce n'est pas un bataillon de chasseurs à pied, c'est de l'armement supersonique, intervient dans un pays, et maintenant de la vie de ceux, y compris du maire de Bordeaux, pour chasser Kadhafi, ou tuer Kadhafi, c'est ça. Je veux dire, est-ce que pendant 30 secondes, on pourrait réfléchir à cette donnée fondamentale que c'est quand même pas dans les mœurs internationales d'intervenir dans un pays pour changer son gouvernement? Ben, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, un jour, je reçois la visite du ministre de la Défense nationale, dont je tirai le nom, étant donné l'anecdote, vous allez voir comment elle se place, qui vient et qui me dit « Roland, il faut qu'on change le président de Djibouti ». Le président de Djibouti. Bon, qui est-ce? Oui, c'est ça. Ben, j'ai dit, mais pourquoi? On ne s'entend pas, les troupes ont des ennuis, ils nous cherchent les crosses, etc. Et puis il m'explique, il me dit, il faut changer. Je dis, écoute, c'est pas de ma méthode, moi je ne suis pas pour qu'un gouvernement intervienne dans un autre gouvernement et chasse le type parce qu'il ne nous plaît pas, parce qu'on a des problèmes, il y a des organisations pour ça. Et je lui dis, écoute, c'est trop grave, j'en parle au président de la République. Je vais voir le président de la République et je lui dis, voilà, j'ai reçu mon collègue de ma défense et qui vient me parler de... Alors de quoi, me dit-il? J'ai dit, changer le président de la République de Djibouti. Changer le président de la République de Djibouti. Lui, le connaissait, moi, je ne connaissais pas. Oui, j'ai dit, oui, c'est ça. Mais il me dit, mais il est fou. J'ai dit, non, il pense qu'on n'est pas bien avec lui, les troupes n'ont pas satisfaction. Non, mais il est fou. Je vais vous dire pourquoi il est fou. Il s'imagine qu'on va nommer quelqu'un d'autre à sa place, mais six mois plus tard, il fera la même chose que l'autre. Alors, en quoi ça sert de changer? Débrouillez-vous, je refuse qu'on change. Donc, si vous voulez, il y a des règles internationales qui font que, bon, il y a des gens qui sont... Il y a des gouvernements qui sont plus ou moins supportables, plus ou moins agréables, plus ou moins démocrates. Encore que, il y en a beaucoup plus qui ne le sont pas que ceux qui le sont. Mais on ne va pas se mettre à faire la guerre à tout le monde. Demain, c'est la Syrie qui va succomber. Après-demain, ce sera l'Iran.
Vous dites dans le livre, j'avais de bonnes relations avec Bachar el-Assad, qui était plus ouvert que son père, un type sympa. Un type sympa qui fait tirer ses flics sur des jeunes de son pays, c'est quand même un peu compliqué.
Il a cessé d'être sympa.
Est-ce que vous comptez le condamner, par exemple? Est-ce que vous comptez le condamner?
Moi, je ne le condamnerai pas, je ne condamne pas, moi je ne suis pas juge. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème dans le monde arabe. Et ça pose le problème d'ensemble de nos relations avec le monde arabe. Comment se fait-il que nous n'arrivions pas à signer un traité d'amitié avec l'Algérie? C'est en discussion depuis la fin de la guerre, et on n'arrive pas à signer ce traité. Comment se fait-il qu'il y ait des émeutes au Yémen, qui était un pays très tenu, très serré? Comment se fait-il que le roi d'Arabie Saoudite, le président de l'Arabie Saoudite, d'Égypte, ait été chassé dans les conditions qu'on connaît? Il y a un malaise général dans le monde arabe qui va petit à petit dégénérer dans un conflit avec l'Occident. C'est mon pronostic. Et je dis que c'est très dangereux, mais ça, on est déjà dans le futur, hein. On n'est plus dans le livre. Et on est dans le futur et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères qui s'exprime. On est engagé dans une situation qui va évoluer vers une aggravation des choses. Alors est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à se dire, est-ce qu'on n'avait pas de meilleures relations, par exemple, du temps du général de Gaulle, hein, ou bien d'autres, comme le président Pompidou même. Souvenez-vous du président Pompidou quand il allait aux États-Unis d'Amérique et qu'il se faisait conspuer par les minorités agissantes là-bas parce qu'il était trop complaisant à l'égard des populations arabes. Donc il y a là un phénomène gangréneux qui se propage et qui peut devenir très dangereux pour l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc il est intéressant de montrer aux Français qu'il y a une autre pensée qui se développe.
Voilà, il est 19h30. Merci à vous toutes.
Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.